Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosourou. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Le 70e congrès de la FIFA s'est tenu par vidéoconférence à Zurich et certains dossiers débattus ont été approuvés, notamment l'assouplissement des règles concernant le changement de nationalité sportive sous certaines conditions, des conditions assez limitatives qui vont permettre à certains joueurs binationaux d'envisager une deuxième carrière internationale avec une sélection différente. Alors, Amine Birouk, c'est le Maroc qui a porté cette proposition. Quelles conséquences cela peut avoir sur certains binationaux d'origine africaine?
C'est une proposition du Maroc qui a vu un dénouement heureux, une proposition née d'une idée, pouvoir repêcher les joueurs expatriés qui auraient disputé des rencontres avec les équipes nationales seniors des pays d'accueil. Ils devaient avoir entre 18 et 21 ans, ils n'ont eu qu'une opportunité de défendre ces couleurs-là, ils n'ont plus été rappelés. Donc plus de possibilités de faire marche arrière et de choisir à nouveau le pays d'origine. Et il y a eu donc l'affaire Mounir Haddadi, international espagnol, qui avait été rappelé à l'âge de 18 ans par Del Bosque pour une rencontre officielle de La Roja, mais depuis aucun signe de la part des sélectionneurs espagnols. Il avait émis le vœu de disputer la Coupe du Monde avec le Maroc. D'où cette idée, et elle va pouvoir être généralisée à tous les pays africains qui seraient dans cette posture, qui auraient la possibilité de sélectionner des joueurs qui ont été pris une, deux, voire trois fois pour quelques minutes, histoire de verrouiller une possibilité de l'appel du pays d'origine. Et aujourd'hui, c'est une jurisprudence qui va s'étendre au Maroc, au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne.
Ahmedine Sy, la binationalité reste un casse-tête pour les sélections africaines?
Non, Élisée, au contraire, l'utilisation de ces binationaux est une aubaine pour les sélections africaines. D'ailleurs, pour moi, l'assouplissement des règles concernant le changement de nationalité sportive est une énorme avancée qui règle plusieurs cas d'injustice. Je peux citer l'exemple du franco-sénégalais Batefimi Gomis, qui avait refusé une sélection chez les Lions lors de la CAN 2008, préférant partir porter les couleurs de l'équipe de France suite à une convocation de Romain Domenech. On se rappelle bien de ce cas. Il a été libéré après quelques bouts de match par Didier Deschamps, mais malheureusement le Sénégal ne pouvait pas utiliser Gomis, qui était un excellent attaquant de l'AS Saint-Etienne. Mais maintenant, grâce à l'amendement Mounir, le Sénégal et les autres pays africains peuvent bénéficier de ces binationaux qui vont faire une bonne chose pour les sélections africaines, parce que c'est des joueurs bien formés et qui peuvent apporter beaucoup à leur pays d'origine. Élisée.
Valdo, c'est une chance pour la RDC qui se trouve aussi dans ce cas.
Chance, vous dites Élisée, je ne pense pas. La RDC est une mine d'or des talents en interne et bien partout. Le Congo démocratique doit s'investir dans la prise en charge et la formation de ces jeunes au niveau national et bien ailleurs, qui s'est contenté de se former par d'autres pays avec d'autres philosophies tactiques que le Congo peine à mettre en place une fois que ces derniers optent pour ces couleurs. Aujourd'hui, la RDC à Kakuta et Bakambu par exemple, deux joueurs qui ont été champions d'Europe avec la France au niveau des jeunes, mais qui peinent à s'adapter et à confirmer en sélection congolaise. Parce qu'entre nous soit dit, formés pour jouer le football européen. Et une fois en sélection de la RDC, leur rendement est en dents de scie, même si les désirs et la volonté y est, mais le peu de temps qu'ils passent en sélection nationale ne leur permettent d'avoir une bonne expression. Mieux à faire, c'est de mettre en place une politique sur le football des jeunes à tous les niveaux et d'en définir les objectifs.
Lawal, cette décision va changer beaucoup de choses.
Élisée, ça ne changera pas grand-chose parce que les puissants auront toujours la pression sur les moins puissants. Quand on me dit 21 ans, c'est bon parce qu'on a eu des joueurs qui ont joué pour les espoirs en France, en Italie, en Allemagne et partout, mais qui n'ont pas été retenus par les sélections européennes et tout le reste. Donc, la FIFA...
Ils auront 3 ans pour finalement jouer pour leur pays d'origine.
Quel moment?
Peut-être au cours de leur carrière, même à 30 ans.
Non, attendez. À quel moment voulez-vous que ça se fasse?
Mais le Maroc qui a proposé cette initiative peut s'en sortir avec certains binationaux, notamment... Mouni El Adadi, qui a joué avec la sélection espagnole. Et il y a 3 joueurs qui jouent avec la sélection hollandaise, dont Bakali.
Le Maroc a porté quelque chose. La Côte d'Ivoire aurait pu faire pareil.
Le Sénégal aussi,
le
même
Sénégal,
la RDC.
Tous les pays africains devraient le faire en principe. Le Bénin a perdu des valeurs.
Colin Dagba et Jules Koundé.
Mais ce qui se passe en Afrique et qui facilite la fuite des talents, c'est que les choses se passent pas comme elles devraient se passer.
Il y a aussi l'organisation.
On n'a pas une organisation. C'est comme on dit, c'est comme ça va rester pour nous. Parce que on n'a pas la grinta qu'il faut pour conduire les choses comme c'est. On pense beaucoup plus à nos intérêts et c'est dommage.
Valdo, on revient à vous avec une autre décision, celle du tribunal arbitral du sport qui a rejeté l'appel déposé par le Wydad de Casablanca concernant la finale de la Ligue des Champions remportée par l'Espérance de Tunis le 31 mai 2019 et dont le match retour avait été longuement interrompu en raison d'un problème lié à l'assistance vidéo à l'arbitrage. L'attente a été longue.
Oui, Élisée, mais le plus important, c'est que cette décision du tribunal arbitral du sport vient mettre un terme à ces dossiers qui a tenu en haleine le football africain et mondial, exposant les difficultés du continent à s'accommoder avec l'assistance vidéo. Et ce qui a marqué d'une tache noire les mandats de l'actuel président de la Confédération africaine de football, la décision de sacrer l'Espérance de Tunis permet à la CAF de se décharger un peu avec ces cas. Il lui reste maintenant terminé avec la saison sportive 2019-2020 et entamer la saison 2020-2021 au niveau des interclubs pour ainsi redevenir un tout petit peu à la normale, quand bien même que les temps et les calendriers se dressent comme 2 facteurs qu'il faudra bien gérer pour la suite de la saison sportive. Je pense que cette décision du TAS vient fixer les esprits et clore une affaire qui a mis du temps pour un dénouement définitif.
Amine, c'est la fin d'un long bras de fer juridique entre le club marocain et la CAF qui avait pourtant confirmé le sacre du club tunisien.
Oui, c'est l'épilogue judiciaire de cette affaire qui a fait très mal au football africain. Le Wydad sort perdant sur le plan juridique. Les prétoires, que ce soit au niveau de la CAF, dans la commission de discipline, la commission d'appel, voire au niveau du tribunal arbitral du sport, ne lui ont pas donné raison. On reprochera peut-être au Wydad de ne pas voir continuer cette rencontre alors qu'ils étaient sur un gros temps fort. Mais il y a eu des répercussions politiques par rapport à ce match-là, puisque s'il n'y avait pas eu cette mascarade à Arades, on n'aurait pas disputé la finale de la Champions League sur une seule manche dans un terrain neutre. C'est en tout cas une avancée qu'il faut mettre à l'actif du Wydad de Casablanca, peut-être de manière involontaire. Mais aujourd'hui, le tournant de cette affaire sur le plan juridique, c'est que l'Espérance va conserver son trophée, que le Wydad a été reconnu entre guillemets coupable et qu'il va devoir s'acquitter des sanctions qui avaient été décidées par la commission de discipline puis la commission d'appel de la Confédération africaine de football.
Au Bénin, la Fédération de football était en assemblée générale ordinaire et extraordinaire à Grand Popo. Les 114 délégués et les membres du bureau exécutif
ont validé le rapport d'activité, le rapport financier et moral de la saison 2019-2020. À l'instar du rapport d'activité, les états financiers de l'exercice 2019 et le budget 2021 d'environ 5 milliards de francs CFA ont été approuvés. Il faut aussi noter que les membres des commissions juridictionnelles ont été installés. Alors, Lawal, la saison 2020-2021 démarre, mais on ne sait pas quand.
C'est là toute la tristesse de cette assemblée générale. On aurait aimé que la fédération nous dise que la saison démarre à telle date précise, mais on comprend un peu les membres du comité exécutif parce qu'ils sont tenus par le gouvernement. Et c'est là toute la tristesse de cette équipe fédérale. La saison va démarrer et quand ça va démarrer, on va sentir ce qui doit se passer. Mais pour l'heure, on attend qu'on décide au plus haut sommet de l'État pour le démarrage du championnat.
Justement, sur cette question, on écoute le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Duchacus, qui s'est exprimé à nos micros.
Dire une date aujourd'hui, ce serait un peu de rêve, parce que même si nous donnons une date et que le gouvernement n'enlève pas les blocages, nous ne pouvons pas réellement démarrer le championnat. On n'a pas le pouvoir aujourd'hui de dire tel jour réellement on peut démarrer le championnat. C'est impossible. C'est le gouvernement qui est le maître à bord qui peut réellement nous orienter pour la période réelle du démarrage.
La FBF a fait part aux délégués de la professionnalisation de son championnat et le gouvernement semble le porter à bout de bras.
Je l'ai dit tantôt, on a comme l'impression que la FBF est devenue comme la marionnette du ministère des Sports parce que la séparation qu'on doit faire entre les affaires d'État et les affaires fédérales n'est pas observée. Et on a bien l'impression, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce soit le ministère qui vienne expliquer les réformes sur les sociétés sportives portées par la fédération. Donc, il y a des choses qu'on doit pouvoir faire, mais cette pression qu'on met, ce turbo, comme vous le dites bien, pour moi, n'est pas anodin. C'est porteur de quelque chose de pas très net, pas très clair pour les acteurs du football.
Alors, Amine Birouk, le Maroc est passé par là avant le Bénin. Quel état des lieux peut-on faire?
La professionnalisation du football au Maroc avance à grands pas. On peut d'ores et déjà affirmer qu'il y a aujourd'hui une ligue professionnelle. Elle va devoir peut-être accueillir une stature plus importante, histoire de ne pas se contenter seulement de programmer le championnat, mais plutôt d'aller chercher des sponsors externes à ceux de la fédération, de pouvoir s'occuper des droits télé, de pouvoir apporter une rentabilité, une visibilité au championnat du Maroc. Mais évidemment, il y a aussi cette ligue de football professionnel féminin qui va voir le jour dans les prochaines semaines et qui va permettre au football féminin de décoller davantage. Ce sont deux gros chantiers auxquels la fédération s'est acquittée et aujourd'hui, il existe deux ligues professionnelles, l'une masculine et l'autre féminine. Il va falloir peut-être que ces modèles s'exportent en Afrique subsaharienne et qu'on puisse peut-être prendre en considération l'exemple marocain qui peut servir de laboratoire pour toutes ces tentatives, y compris au Bénin.
Ahmedine Sy, le championnat sénégalais n'est professionnel que de nom, comme l'a dénoncé Souleymane Sané.
Tout à fait, Élisée, le championnat professionnel sénégalais n'est professionnel que de nom, comme l'avait d'ailleurs dénoncé l'ancien buteur des Lions des années 90, Souleymane Sané, qui est autre le papa de Leroy Sané, l'ancien joueur de Manchester City, qui a rejoint le Bayern. Mais cela ne doit pas empêcher un pays comme le Bénin de tenter quand même cette expérience, puisque contrairement au Sénégal, où le gouvernement n'était pas en phase avec les responsables du football, le gouvernement béninois est prêt à accompagner la fédération béninoise dans ce projet. Donc je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, il faut bien réfléchir par rapport à ce projet, chercher les moyens, essayer de voir beaucoup de sponsors et des sociétés nationales qui vont accompagner ce projet pour pouvoir réussir, parce que sans moyens, on ne peut pas quand même réussir à faire un championnat professionnel. Élisée.
Valdo, la RDC n'est pas logée à la même enseigne. Les clubs qui sont gérés de façon professionnelle font partie des meilleurs sur le continent.
Exactement, Élisée, la RDC reste un cas à part. Il faut être africain pour bénéficier de l'appui du gouvernement, prime des matchs, préparation et bien d'autres avantages. La crise financière due à la Covid-19 est venue bousculer les choses à l'avantage des clubs, puisque exceptionnellement pour cette saison, le gouvernement s'investit à prendre en charge les frais des transports des clubs engagés au championnat de la division 1 et 2, les frais des participations également pris en charge par la Fédération Congolaise de Football Association, un véritable soulagement pour le club de la RDC. Cela ne veut nullement traduire la volonté du gouvernement de prendre en charge l'organisation du championnat qui reste le souhait de plus d'un club. Il faudra observer ce qu'il adviendra après la Covid-19 pour se rendre compte de la vraie réalité de ce football qui reste l'un des mieux cotés sur les continents. Le rendre professionnel reste également un souhait, mais la faisabilité est loin d'être la seule affaire du gouvernement.
En Côte d'Ivoire, la Ligue professionnelle de football a fait un projet de calendrier général des compétitions de la saison 2020-2021. Ces propositions portent sur la Super Coupe Félix Fouéboigny, le début et la fin du championnat de Ligue 1. Il faut noter que Mamadou Koné, président de la SOA, Abaka Koné, président du WAC, et Cyril Demoreau se sont retirés dès le début de la réunion après avoir déposé leur lettre de démission à Gaspard Seyi, deuxième vice-président de la Ligue, qui a d'ailleurs dirigé cette réunion. Pour eux, il n'est pas question de parler d'une nouvelle saison tant que les élections à la FIFA n'auront pas été organisées. Ils indiquent par ailleurs que seul un comité exécutif régulièrement élu peut légitimement lancer la nouvelle saison et résoudre toutes les questions en suspens. Alors, Amédine Sy, c'est une décision assez forte.
C'est anormal de vouloir débuter vraiment cette saison sans pour autant organiser comme les élections. C'est pas du tout normal. Les démissionnaires ont raison parce que c'est une façon de mettre la pression sur les responsables du football ivoirien, car que qu'on le dise ou on le dise pas, force est de reconnaître que le football ivoirien est dans une zone de turbulence pour histoire d'assemblée générale ou de candidature seulement. C'est vraiment triste pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même s'asseoir autour d'une table, essayer de vider ce contentieux électoral. Après partir du bon pied, je pense que c'est la bonne solution. Élisée.
Valdo, comment comprendre que malgré la suspension du processus électoral par la FIFA, la Ligue pense reprendre ses activités ?
Élisée, la Côte d'Ivoire et sa crise électorale au sein de sa fédération de football est loin de nous livrer son dernier épisode. La décision de la Fédération internationale de football association de suspendre ses processus électoraux commençait déjà à entamer la pratique du football et je trouve normal cette décision qui, au fait, ne demande qu'à la CAF et la FIFA de libérer le football ivoirien en permettant qu'ils achèvent les processus suspendus d'une part, ou soit mettre en place un comité ad hoc qui devait prendre en charge la gestion de la nouvelle saison sportive à tous les niveaux, ainsi permettre à ce que tout soit fixé sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Sinon, il n'y a pas mieux qu'en finir avec ces processus électoraux pour que le nouveau patron du football ivoirien mette en place sa politique et le fonctionnement à tous les niveaux.
Justement, Amine Birouk, la fédération ivoirienne a demandé dans un courrier à la FIFA de lever la suspension de son processus électoral, soulignant que cette décision l'empêche d'élire son nouveau patron.
C'est un épisode de plus de cet imbroglio du football ivoirien. Aujourd'hui, c'est désolant de voir tous ces problèmes rejaillir sur la place publique. On a commencé par une élection qui n'a jamais eu lieu, puisqu'on a refusé la liste de Didier Drogba, l'ingérence de la FIFA qui a voulu jouer au bon médiateur. On a maintenant ces deux démissions qui mettent en exergue les faiblesses actuelles du football ivoirien, avec un peu de juridisme de la part de Mamadou Koné, Abakar Koné et Cyril Domoreau, qui indiquent que le championnat ne devrait pas démarrer tant qu'il n'y aura pas un nouveau président de la fédération. Et puis ce dernier courrier qui est éloquent. Aujourd'hui, le football ivoirien est dans l'impasse. Quelle est la solution? Peut-être remettre sur les rails le processus électoral de manière plus transparente, mais il va falloir quand même qu'une commission provisoire puisse s'atteler en tout cas à mettre également le championnat sur orbite. Sans championnat, il n'y aura pas d'activité en Côte d'Ivoire, mais il y a également la condition sine qua non, c'est l'élection d'un président. On est vraiment dans une impasse.
Lawal, ce blocage pénalise fortement tout le football ivoirien.
Oui, Élisée, le foot ivoirien est pénalisé et c'est là même qu'on se demande à quoi servent toutes ces élucubrations que font les gens dans les réunions, la Ligue qui demande à reprendre le championnat, alors que le comité exécutif de la fédération
nomination est suspendue.
Donc ceux qui ont démissionné ont pleinement raison.
Entièrement raison. Et c'est de la prestidigitation que de vouloir reprendre un championnat comme ça quand on sait que le processus devant aboutir à l'élection des responsables, ils ne sont pas encore élus. Et vous voulez vous affranchir de leur...
C'est une manière de mettre aussi la pression sur la FIFA.
La FIFA ne peut pas subir cette pression-là. La pression est venue de trop en bas. Mais on aurait pu laisser tout le monde compétir comme il se doit. On ne serait pas à cette situation-là en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Athlétisme et corruption pour terminer cette émission. Lamine Diack a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour son implication dans un réseau de corruption dans le dessein de dissimuler des cas de dopage en Russie. Le Sénégalais de 87 ans, ancien patron de l'athlétisme mondial de 1999 à 2015, a été reconnu coupable de corruption active et passive et d'abus de confiance et devra par ailleurs s'acquitter d'une amende maximale de 500 000 euros. On revient à vous, Amine Birouk. Cette condamnation est comme une sorte de deux poids, deux mesures.
C'est en tout cas l'épilogue d'une affaire qui a fait très mal à la réputation de Lamine Diack, de l'athlétisme, de l'Afrique. Aujourd'hui, il est condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il va falloir peut-être prendre en considération son âge, 87 ans, pour pouvoir lui permettre de bénéficier de conditions rapides pour sa libération. Mais il faudrait juste rappeler que c'est tout un système qui est en train d'être battu en brèche. Lamine Diack n'a été, entre guillemets, que la partie visible. La Fédération internationale d'athlétisme essaie de lutter contre ce genre de supposée corruption avec le dopage, avec l'affaire de la Russie. Mais il est de notre droit de se poser une question. Pourquoi ça ne tombe que sur les pays du tiers-monde? Pourquoi en général, lorsqu'il y a des dirigeants venus du monde, entre guillemets, occidental ou évolué, il n'y a pas cet acharnement juridique? Mais si aujourd'hui Lamine Diack a fauté, il va payer cette erreur ou ses erreurs, mais encore faudrait-il qu'il y ait d'autres poursuites concernant ces personnes qui ont contribué à cette nébuleuse qui a fait très mal à l'athlétisme mondial.
On écoute justement Maître Simon Ndiaye, avocat de Lamine Diack, qui conteste cette décision et promet faire appel.
La défense de M. Diack va faire appel de cette décision. Cette décision est une décision qui est injuste et inhumaine. Elle est injuste parce qu'on voit que le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct, a voulu se servir de M. Diack comme étant en bouc émissaire. En lisant cette décision, le tribunal nous a montré que il n'a fait que épouser de façon entière la thèse du parquet. Aucun élément présenté par la défense n'a été écouté. Toutes les thèses du parquet ont été épousées sans recul. Alors que le parquet, à la fin du réquisitoire, avait dit « j'ai des doutes », aujourd'hui nous avons un tribunal qui n'a plus de doutes. Le tribunal a des certitudes. Nous avons noté plusieurs incohérences, notamment quand on nous dit qu'il y a eu financement de campagne, mais que dans le même temps, on reconnaît qu'on n'a vu aucune trace de ce financement-là. Voilà. On nous dit qu'il y a abus de confiance, que 15 millions de dollars auraient été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat ne sont pas mis en cause. Les bénéficiaires du contrat ne sont pas mis en cause. Ceux qui travaillent avec M. Diack, il n'y en a aucun qui est poursuivi dans le cadre du marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel.
À Médine, on a vu au foot des actes de corruption manifestes. Mais ni Platini ni Blatter n'ont écopé de peine de prison.
Tout à fait, Élysée, on a vu au football des actes de corruption manifestes, hein, comme l'affaire Blatter et Platini, qui n'ont pas écopé de peine de prison. Cela prouve qu'il y a une justice à deux vitesses, car au moment où le juge du 32e cabinet du tribunal financier de Paris condamnait Lamine Diack à 4 année de prison de 2 ans ferme, un certain Michel Platini se pavane partout en Europe, ce après avoir reconnu pourtant avoir reçu 1,8 milliard d'euros de ses Blatter pour affaire dite d'homme à homme. D'ailleurs, pour l'ancien président, Sepp Blatter, qui est mêlé à plusieurs scandales liés à la corruption, dont je ne peux pas énumérer parce que nous sommes dans une émission qui ne dure que 30 minutes. Donc, Blatter avait soutenu que Platini avait même influencé le vote en faveur du Qatar contre les États-Unis pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Cela pour vous dire simplement que ces deux ministres sont mêlés à beaucoup de scandales, mais pour le moment, ils n'ont pas été condamnés. Pourquoi? Je donne ma langue au chat Élysée.
Merci à Medine Si. Sporama, c'est fini. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.